Bonsoir, entrons ensemble jusqu'à 19h dans le temps du débat. À l'ordre du jour ce soir, où en est la conflictualité sociale aujourd'hui? À 3 jours de la grande journée de mobilisation du 5 décembre, le temps du débat s'interroge sur le nombre, l'intensité et la variété des conflits sociaux en France. Le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi celui qui s'est développé depuis 6 mois dans les hôpitaux, ont renouvelé les registres d'action revendicative et bousculé souvent les organisations syndicales. Mais le retour de la grève et de la manifestation traditionnelle avec la journée du 5 décembre montre que les anciens modes de protestation n'ont pas dit leur dernier mot. Nous allons en parler avec nos 4 invités. Maryse Dumas est en direct pour nous donc depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Nous les en remercions. Elle est membre du bureau de l'Institut CGT d'Histoire Sociale, ancienne secrétaire fédérale de la CGT. Anouchée Carvard est avec nous. Elle est ancienne secrétaire nationale de la CFDT, ancienne directrice adjointe du cabinet de la ministre du Travail et également actuelle déléguée du gouvernement français au conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail. Avec nous également Éric Chevet, il est vice-président aux affaires sociales à la CPME. La CPME, vous déclinez les...
Confédération des petites et moyennes entreprises.
Exactement, mais vous êtes également président du CESER.
CESER, Conseil économique, social et environnemental, Centre Val-de-Loire.
En Centre Val-de-Loire. Et avec nous, Laurent Jean-Pierre, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Il est auteur d'un livre récent sur les Gilets jaunes, Ingiroom, c'est aux éditions La Découverte. Et vous suivez également, on en parlera avec vous, les débats de la Convention citoyenne sur le climat qui ont quelque chose aussi à voir avec cette discussion d'aujourd'hui.
La France s'installe dans les grèves, des grèves qui s'étendent, se durcissent et se politisent. Nous allons y revenir. À l'issue d'une réunion à Matignon avec tous les ministres concernés, a été décidée la mise en place de moyens de transport de substitution en Île-de-France. Environ 1500 cars privés vont être mis en place progressivement et les bateaux-mouches seront gratuits en fin d'après-midi.
Certains formulent des exigences. Ils disent, le préalable à toute discussion, c'est que le gouvernement retire son plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Eh bien, je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire. Cela irait contre l'intérêt de chacune et de chacun d'entre vous et contre l'intérêt de la France.
Rassurez-vous, vous n'écoutez pas Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission d'histoire parlant des grèves, mais vous écoutez bien le temps du débat. Et c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'est il y a 24 ans, exactement, quasiment jour pour jour, le 3 décembre 95, Bruno Mazur parlait justement de ce mouvement social aux 20h de France 2. Et ensuite, c'était le 5 décembre, Alain Juppé, le Premier ministre, disait qu'il ne retirerait pas son projet de loi sur la sécurité sociale. Vous vous souvenez de ce moment, Anouchée Carvard?
Ah, tout à fait. C'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que secrétaire de section syndicale. À l'époque, j'étais déléguée syndicale à la Bibliothèque nationale de France et aussi élue du personnel. Et mon supérieur, c'est-à-dire mon secrétaire de section au-dessus de moi, était bloqué à Lyon, ne pouvait plus revenir à Paris. Et donc, j'ai dû prendre sa place dans les assemblées générales. Et ce fut ma première expérience d'assemblée générale, en effet.
Et pour vous, Maryse Dumas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à la CGT à l'époque et vous êtes maintenant membre du bureau de l'Institut CGT d'Histoire Sociale. Vous vous souvenez évidemment de ce moment de décembre 1995 qui fait parfois penser à ceux qui nous écoutent, à ce que nous allons peut-être connaître ou peut-être pas d'ici quelques jours.
Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien, mais je me souviens surtout du 24 novembre 1995, parce que j'étais secrétaire générale de la Fédération des PTT, de la CGT à l'époque, et nous avions le 24 novembre décidé d'une journée d'action et de grève des fonctionnaires. Dans le même temps, nous, avec les fédérations FO de fonctionnaires, c'est une action unitaire, et dans le même temps, nous apprenons que la Confédération Force Ouvrière, dirigée à l'époque par Marc Blondel, appelle à une journée de grève interprofessionnelle pour le mardi suivant, c'est-à-dire le 28. Et donc, nous avons décidé d'essayer de reconduire la grève du 24 au 25, donc de passer le week-end et d'aller jusqu'au mardi. Et c'est ce qui a déclenché la grève, aussi bien au PTT, chez les cheminots, à EDF, etc. C'est comme ça que ça a démarré. Et j'ajoute que le samedi 25 novembre 1995, nous avons eu une une immense manifestation pour les droits des femmes. Vous voyez que ça résonne un peu avec l'actualité. Mmh. C'était une très grosse manifestation. Il n'y en a pas eu d'aussi importante jusqu'à celle qu'il vient d'y avoir sur la question des violences faites aux femmes assez récemment, il y a quelques jours.
Et Éric Chevet, bonsoir. J'imagine que vous avez un souvenir peut-être un peu cuisant du côté de la CPME de ces grèves de décembre 95 qui ont duré plus de 20 jours.
En 95, effectivement, j'étais jeune chef d'entreprise en province, dans le commerce, et quand approche Noël et qu'on voit arriver une période de grève comme ça, surtout dans le commerce, on s'inquiète quand même au plus haut point. Et je note quand même par rapport à l'introduction qui a été faite et au son que nous avons entendu que à l'époque il y avait un texte sur la table
et que là il n'y en a pas
et donc il y avait la discussion de retirer le texte, mais là on est même en avance. Donc en matière de conflictualité sociale, c'est intéressant de voir que avant même d'ailleurs qu'il y ait un texte posé sur la table, on a déjà
des mouvements qui commencent. Laurent Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc professeur de sciences politiques. Vous suivez beaucoup ces questions de conflictualité sociale pour votre propre travail de chercheur. Est-ce que vous, on sait que comparaison n'est pas raison, mais est-ce que ce qu'on vient d'entendre, ça vous rappelle quelque chose par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ou est-ce que il faut se dire que les 24 ans qui nous séparent de ce moment-là ont été décisifs dans les changements peut-être de conflictualité sociale?
Bah écoutez, en tout cas, le spectre de 95 est très présent cette semaine. Je crois qu'on vient à l'instant d'en parler. Ce sera difficile de ne pas y penser. Je crois que pour beaucoup de gens, vous m'avez pas demandé ce que j'avais fait moi en 95, mais j'étais dans la rue et j'étais assez exalté. Je crois que 95 a ouvert en tout cas un cycle de lutte et de protestation, pas seulement en France. En réalité, ça a ouvert en tout cas pour beaucoup. Un cycle de critique de ce qu'on appelle aujourd'hui néolibéralisme et qu'on n'appelait pas encore, ou en tout cas rarement, néolibéralisme à l'époque. Je crois malgré tout qu'on est dans un autre cycle, mais ça ne veut pas dire que la question de la réforme des retraites n'est pas sur la table, comme vous disiez, et elle est sur la table dans beaucoup de pays depuis 25 ans. Alors évaluer ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est difficile, parce que de toute façon, on n'a pas de bonnes mesures de la conflictualité sociale. On a des mesures de la conflictualité en entreprise, ça je pense que on en parlera ici. Ces mesures sont elles-mêmes diverses, mais finalement la conflictualité en général, c'est-à-dire les manifestations, les formes de lutte, le nombre de luttes, les causes de lutte, on a parlé du féminisme à l'instant, on parlera probablement du climat, finalement ça se mesure très difficilement. Le ministère de l'Intérieur, qui est censé fédérer ces mesures, ne sait pas très bien le faire. Donc déjà quantitativement, apprécier la différence avec 95 est pas facile, et puis on y reviendra je pense. L'apprécier qualitativement n'est pas simple non plus, mais on voit bien que la centralité, en tout cas des luttes autour, on pourrait dire, de l'État-providence et de ses transformations, n'est peut-être plus ce qu'elle était à la fin des années 1990, en tout cas en France.
Qu'est-ce qui explique justement ce glissement, Anouchée Carvard, c'est-à-dire cette idée que peut-être à une époque où on a commencé à penser que la manifestation, que la grève elle-même pouvait ne pas être les bons moyens pour pouvoir faire avancer les acquis sociaux par exemple, et qu'on allait avoir d'autres types de rapports sociaux qui allaient s'établir entre soit les patrons, soit l'État, lorsque cet État était régulateur, et les citoyens.
Je pense que là-dessus, il faut revenir sur la société industrielle telle dont nous avons hérité, et dans laquelle on avait quand même l'habitude de relations sociales réglées sur une chorégraphie bien huilée, bloc contre bloc, avec d'un côté le bloc du travail qui œuvrait à l'extension des droits sociaux, à des garanties collectives, et de l'autre côté le bloc du capital qui prônait l'efficacité économique avec moins de règles, plus de flexibilité. Et on n'est pas resté figé là-dedans, puisque la CFDT notamment et d'autres organisations syndicales ont porté la recherche d'une troisième voie pour dépasser les conflits de logique.
Enfin, en 95, ça s'est mal passé.
Ça s'est mal passé, mais c'était aussi peut-être pour la première fois ce souci du résultat qui était aussi dans la tête de beaucoup de personnes, qui estimaient que le débouché de manifestations aussi importantes, de grèves aussi longues, était pas seulement de dire non, mais aussi d'engranger des résultats, ne pas être seulement dans la défensive en essayant de défendre des acquis, mais aussi engranger de nouveaux droits. Et sans doute, la CFDT a aussi porté cette voie et a pu continuer avec d'autres organisations. Et quand on regarde, alors évidemment, le bilan des négociations collectives dans les entreprises, et pas seulement au niveau national interprofessionnel, on voit que ce souci de résultat est bien partagé avec d'autres organisations syndicales qu'on identifie davantage à la conflictualité, comme la CGT, Force ouvrière ou d'autres. Donc je pense que globalement, en quoi 95 a été un moment fondateur, sans doute aussi pour ce résultat à rechercher et qui a permis sans doute à aller plus loin sur la question, par exemple, de l'hôpital. On l'a souvent oublié, c'est par là que ça commençait. Et la réforme de l'hôpital a continué après à produire des résultats.
Oui, mais aujourd'hui, effectivement, l'hôpital est encore en crise. Maryse Dumas, qu'est-ce que vous pensez justement de ce temps qui nous sépare de 1995 et de ces évolutions, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle la conflictualité sociale? Ça se mesure comment, la conflictualité sociale, selon vous, Maryse Dumas? Alors, en nombre de jours de grève, en résultats obtenus, comme vient de le dire Anouché Carva?
Oui, déjà, si vous voulez, en ce qui concerne la grève, depuis le 19e siècle et les débuts du salariat, c'est malheureusement, mais par les grèves, que la plupart des acquis sociaux ont pu être obtenus.
Et vous savez que nous sommes en grève à Radio France ces temps-ci.
Justement, vous me coupez la parole parce que j'allais le dire. Et je veux dire que j'apporte ma pleine solidarité aux grévistes de Radio France et je souhaite beaucoup de succès à leur lutte. Et ma présence ici vise en fait à soutenir aussi leur action. Le bilan de la négociation collective dont vient de parler Anouché Carvard, c'est très simple. Plus la négociation collective est entourée de rapports de force importants, et plus elle débouche sur des résultats importants. La question, c'est précisément celle de la capacité des salariés d'aujourd'hui à se mobiliser. Et depuis 1995, ce qui est d'une netteté incroyable, c'est l'évolution grave en matière de précarité, de flexibilité, de perte de droits de la part des salariés.
Et vous voulez dire que ça correspond à une baisse de la mobilisation, justement, ce travail en miettes ?
Les deux vont ensemble. Je pense que sur les baisses de mobilisation interviennent bien sûr l'idée que on a plus de mal à gagner qu'auparavant. Je pense que d'ailleurs on peut... Eh ben, ça tient au fait que, d'une part, vous avez eu une période de désindustrialisation très importante au début des années 80, et les grandes entreprises où les syndicats étaient forts et obtenaient des acquis ont disparu. Sont restés, bien sûr, les services publics, et eux-mêmes sont en très grande difficulté. Et se sont multipliées des entreprises petites et moyennes, avec aujourd'hui une majorité de salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés, où les syndicats ont beaucoup de mal à s'implanter et où il y a beaucoup de mal à gagner sur des revendications. Et puis il y a aussi des responsabilités politiques des gouvernements successifs, par exemple sur la question des retraites. Il y a eu des alternances au niveau du gouvernement. Il y a eu des gouvernements de gauche, il y a eu des gouvernements de droite.
Plan Juppé, réforme Fillon, réforme Woerth, réforme Touraine et réforme Macron maintenant. Ça fait quelques...
Exactement. Et donc, cela participe de l'idée qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Ouais. Et quand le président de la CPME tout à l'heure disait, là, il y a une mobilisation... Avant même qu'il y ait un texte sur la table, oui, seulement depuis des années, la réforme des retraites, à chaque fois, on nous dit « c'est la dernière, c'est la bonne », et à chaque fois, on remet un sou dans la machine. Donc les gens commencent à savoir ce qui se passe. Et puis, il y a aussi, je crois, le fait que ce qu'on voit se dresser aujourd'hui, c'est ce que le président de la République, vous savez, le président de la République, il parle des premiers de cordée et il a une politique au service des premiers de cordée. Et pour lui, les autres personnes, ce sont des gens qui ne sont rien. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui se mobilisent, ce sont précisément ceux dont le président de la République dit qu'ils ne sont rien et qui se sentent atteints dans leur dignité par des propos de ce type et une politique qui va dans ce sens.
Éric Chevet, vous représentez donc, aux yeux, j'imagine, de Maryse Dumas, ces petites entreprises où on ne peut pas vraiment se syndiquer, puisque vous êtes vice-président aux affaires sociales de la CPME. Est-ce que vous pensez justement que cette question du conflit social, vous la vivez différemment du moment où vous étiez il y a 10 ou 20 ans, donc en train de fonder votre propre entreprise?
Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de syndicat dans les TPE-PME qu'il n'y a pas non plus de dialogue. Et évidemment qu'il existe un dialogue.
On parle de conflictualité, vous parlez de dialogue.
Absolument. Je pense que c'est un point important. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'évolution de 95 à aujourd'hui est quand même largement impactée par l'évolution du monde et que le monde a beaucoup changé en 25 ans là. Alors évidemment la mondialisation est une chose importante, mais il y a aussi la circulation de l'information qui a pris des formes complètement différentes. Tout ça fait que petit à petit, en matière de démocratie sociale, il y a quelque chose, il y avait certainement un modèle à repenser, à réimaginer, et qu'on est resté encore sur des bases assez anciennes. Donc c'est pour ça que nous portons, nous, à la CPME, un projet là-dessus, sur la rénovation de la démocratie sociale. On pourra éventuellement en reparler. Mais pour reprendre le sujet, effectivement, des entreprises, alors les entreprises, effectivement, les grandes entreprises nationales, comme on disait à l'époque, sont un peu démantelées, ont disparu, et c'était aussi des laboratoires sociaux, on les appelait comme ça à l'époque. Et très clairement, la relation aujourd'hui a complètement changé. On l'a vu dernièrement aussi avec les modifications sur le champ social.
Laurent Jean-Pierre, vous avez suivi pour votre livre que je conseille absolument, qui s'intitule « Les leçons politiques des ronds-points Ingiroom », c'est le titre, à la découverte. Vous avez suivi le mouvement des Gilets jaunes. Voilà donc un mouvement qui part de façon différente des autres, qui est très surprenant, dites-vous, parce qu'en fait, improbable dans sa genèse, inventif dans ses expressions, impur idéologiquement, donc évidemment il ne peut pas être classifié, qui va profondément bouleverser, y compris les organisations qui sont censées représenter les plus pauvres, les plus démunis dans notre propre société. Et cela, ça fait partie effectivement de ces renouveaux qui sont très étranges, comme d'ailleurs ce qui se passe à l'hôpital ces temps-ci, ce qui se passe chez les étudiants, etc. etc.
Oui, alors je fais pas du tout ce mouvement à modèle, mais je crois que pour l'analyser à la fois dans son originalité et en même temps voir ce qu'il a de commun avec d'autres, il faut le resituer effectivement dans une série, qui est une série de mouvements qui en quelque sorte ont échappé au monde syndical. On peut le déplorer comme Maryse Dumas l'a fait, et je comprends parfaitement, mais en réalité, oui, les courbes du taux de syndicalisation,
les on courbes, est environ à 10%, c'est ça,
11%, enfin ça dépend effectivement des données auxquelles on a accès, les courbes d'investissement des permanents dans les syndicats, les courbes effectivement sont déclinantes. Alors voilà, c'est un fait qui peut tout à fait être contrecarré,
mais la colère sociale qui est toujours là, et donc elle prend d'autres chemins, c'est ce que
voilà, c'est-à-dire que parallèlement à ça, d'autres colères s'expriment par d'autres moyens, et en réalité, des mouvements qui sont autonomes du mouvement syndical, il y en a depuis très longtemps, depuis au moins un demi-siècle, et on se souvient des coordinations d'infirmières, on se souvient du mouvement des sangs, qui ont parfois été articulés avec l'action syndicale, qui ont parfois été réintégrés dans l'action syndicale, je pense notamment à une partie, disons, des mouvements de chômeurs, et donc du coup, c'est vrai que il faut regarder la conflictualité sociale dans l'ensemble de ses composantes. Et or, cette composante qui échappe au fond au monde syndical et aux institutions, du moment fordiste de l'État-providence, elles n'ont cessé d'augmenter. Les Gilets jaunes, de ce point de vue-là, me semble être un point de radicalisation ou un point d'expression maximale de cette tendance, mais ça se manifeste aussi par des choses beaucoup plus formelles, beaucoup plus superficielles, comme le débordement dans les manifestations, comme la transformation des modes d'action dont vous parliez. Donc effectivement, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de colère qui échappe aux institutions du mouvement social, et je crois que c'est au fond ce qui est en train de se passer maintenant. Et de ce point de vue-là, la grève du 5 décembre ne va pas résoudre toutes les questions qui sont en suspens dans la société française.
J'ai vu des gens tomber à la mer, j'ai vu des gens fuir la mer, j'ai vu des gosses creuser la terre au profit de gros milliardaires, j'ai vu l'État créer des guerres, avec des armes pour les affaires, démocratie autoritaire pour nous faire manger la poussière. Ta télé et enfile ton gilet et
le marché. Le marché, le marché, le marché, le marché, le marché,
le marché, le marché, le marché, le marché, le France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Voilà un écho de diverses mobilisations montées par notre réalisatrice Marie-Laure Ciboulet pour évoquer justement, dans ce temps du débat consacré à la conflictualité sociale aujourd'hui, les différentes formes de mobilisation. On peut dire peut-être, Anouché Carvard, que l'habitude du mouvement syndical ou l'habitude des mouvements sociaux, c'était de tenter de faire peur à soit au patron, soit au gouvernement, et donc de créer de l'inattendu. On peut dire que depuis un an, on a été servi dans ce domaine-là.
Peut-être revenir sur les évolutions du monde du travail. Maryse Dumas a parlé des petites entreprises, mais je pense que globalement, dans les collectifs de travail, ce qui a profondément changé ces dernières années, c'est de voir une baisse générale du pouvoir de négociation des travailleurs qui est liée au fait que les collectifs de travail sont très fragmentés. C'est-à-dire le même travail aujourd'hui, dans la même entreprise, peut être effectué par quelqu'un qui est en CDI, quelqu'un qui est en CDD, quelqu'un qui est intérimaire, quelqu'un qui est micro-entrepreneur, qui a une relation commerciale avec la boîte, qui est ubérisé. Et cette difficulté aujourd'hui des organisations syndicales...
C'est-à-dire que la disparition d'un statut, disons, plutôt unifié, qui ont été donc le propre des grandes institutions depuis la Seconde Guerre mondiale et de l'installation de l'État-providence, ça c'est terminé, ça.
C'est peut-être pas totalement terminé, mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience du travail, qui était une expérience de socialisation, c'est-à-dire autour duquel les gens se reconnaissaient et se rencontraient, donne lieu à des expériences individuelles très diverses. Et ce qu'on a rencontré au cours du mouvement des Gilets jaunes, c'était aussi cette collection d'individualités.
Et de statuts très différents.
Et de statuts très différents qui se mobilisaient dans l'indifférence à l'égard des organisations syndicales et de la méfiance des organisations syndicales à leur égard.
Oui, sur ce point, Éric Chevet, vous le notez, vous aussi, à la CPME?
Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, on a une dérégulation là, du statut, de la référence,
etc. Et les patrons, etc. Ou l'État, ils visent pour régner d'une certaine façon.
Du coup, derrière, je pense qu'il y a une crise de la représentativité qui suit derrière, qui accompagne en fait ce mouvement-là, que ce soit la représentativité politique, et on a vu dernièrement des explosions dans tous les sens, mais on n'est pas exempt, nous, sur le champ social, je crois, de cette crise de la représentativité. Et ces mouvements qui s'exercent ici ou là sont clairement l'expression bien d'une absence de repères en matière de représentativité aussi, et qu'on doit le prendre en compte.
Et Maryse Dumas, on le voit par exemple pour toutes les actions sans préavis que l'on voit maintenant. Auparavant, il y avait un rituel, c'était le rituel du dépôt de préavis de grève, etc. Et là maintenant, on a vu très récemment toutes ces actions qui sont nombreuses et qui montrent peut-être qu'on a décidé de se passer justement des rituels traditionnels du syndicalisme.
Les préavis de grève ne sont pas des rituels, ce sont des formes imposées par la loi pour réduire le droit de grève des salariés. Moi, j'appartiens à une profession, les PTT, où les sanctionnés pour refus de préavis de grève se sont comptés à l'appel pendant des années, jusqu'à l'amnistie qu'a fait après l'élection de François Mitterrand, l'amnistie pour ces raisons.
Donc, c'est un vieux moyen
c'est
pour
pas
être
vraiment
dire
nouveau.
De... Oui, c'est ça.
Ça, c'est pas vraiment nouveau. Si vous voulez, quand les gens ont des revendications à exprimer et qu'ils décident de les exprimer, qu'ils en ont vraiment marre et qu'ils se mettent en lutte, aucun arsenal anti-grève ne résiste.
Vous parlez d'arsenal anti-grève, on pouvait dire régulation de la grève, par exemple. C'est comme ça que d'autres le voyaient. Vous le voyez comme un arsenal anti-grève.
Pour ce qui me concerne, je parle d'arsenal anti-grève parce que, par exemple, dans le préavis de grève, qu'il s'agisse à la SNCF, dans la fonction publique, enfin dans tous les secteurs où il y a l'obligation du préavis, il était censé obliger les employeurs publics à négocier sur les raisons de la grève pour éviter que la grève ait lieu. Or, en fait, cette négociation n'a jamais lieu. Donc, c'est bien une arme anti-grève à partir de laquelle, si vous n'avez pas respecté le préavis, eh bien, vous êtes... non seulement vous avez une retenue sur salaire, mais en plus, vous êtes sanctionné à l'avancement. Vous pouvez avoir des sanctions très lourdes. Bon, enfin, ça dépend des... Je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les mouvements que nous constatons aujourd'hui, il y a une part qui relève effectivement de la désyndicalisation, de la difficulté des syndicats, notamment de ceux qui veulent mobiliser les salariés à être présents dans les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui et auprès des salariés tels qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire y compris les même s'ils ne se reconnaissent pas dans le salariat, mais toutes ces formes de pseudo-auto-entrepreneuriat autour d'Uber, les plateformes Deliveroo, etc. Bon. La difficulté des syndicats à répondre aux attentes de ces travailleurs et travailleuses nouvelles formules. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, je crois, dans la société. Parce que quand on regarde l'évolution des mouvements féministes, l'évolution des mouvements pour le climat, pour l'avenir de la planète, tout ce qui s'est dit et fait autour des gilets jaunes et par les gilets jaunes, même si c'est encore complexe d'analyser la totalité de ce mouvement, moi je crois qu'il y a des nouvelles exigences qui sont et qu'elles concernent le mouvement syndical, bien sûr, mais le mouvement syndical, son objectif, c'est le salariat. C'est son champ
c'est son champ d'action habituel.
C'est comme ça que le syndicalisme se définit. Mais je crois que ce qui est en train de mûrir, c'est au fond un rassemblement de tous ceux qui estiment que les politiques libérales, néolibérales qui sont menées, vont à contre-courant de ce qui est nécessaire au plan social, au plan de la planète et au plan des les individus, femmes et hommes, la possibilité de vivre son orientation sexuelle comme on le souhaite. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui passe par des voies inconnues, très différentes, mais je crois qu'on est au début de quelque chose de complètement nouveau et qui va poser de sacrés problèmes politiques à ceux qui dirigent notre pays, mais même au-delà de la planète.
Anouché Carmar, vous êtes à l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Ce qui vient d'être dit par Maryse Dumas, vous le constatez dans d'autres pays que la France, ou est-ce que on le constate simplement dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire cet éclatement, cette division, ces types? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est l'histoire syndicale française, c'est l'histoire des conflits français, etc., qui est en train de changer, et c'est, on ouvre une nouvelle page. Mais ça peut être aussi la même chose dans d'autres pays européens, par exemple.
Moi, je vous dirais même que c'est mondial. Ce n'est pas un apanage de la France ou des pays européens. Je pense que globalement, si vous voulez, ces nouvelles formes d'emploi, division internationale du travail tout le long des chaînes d'approvisionnement mondiales fait en sorte que ceux qui travaillent, on va pas les appeler les salariés parce que tous ne sont pas salariés, mais les travailleurs, en règle générale, ont de plus en plus de mal à manifester des demandes et avoir des exigences qui les réunissent autour des mêmes causes. Et de ce fait...
Il y a bien eu un 19e siècle, je ne veux pas faire mon historien, mais il y a bien eu un 19e siècle qui était, disons, épars, avec des mouvements qui étaient syndicaux très différents, parce que justement, les conditions sociales étaient différentes. On avait fini par les réunir. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer, cette dispersion que vous décrivez, Anouché Carmar, peut donner lieu à un moment ou à un autre à une sorte de réunion différente de ce que nous avons connu à la fin du 19e avec la naissance du syndicalisme moderne?
Sans aucun doute, rechercher des modalités d'action au niveau international et au niveau mondial qui permettent aux travailleurs de se réunir, parce que évidemment, le fait qu'on puisse avoir des droits fondamentaux, des droits sociaux fondamentaux partout dans le monde permet aussi non seulement de lutter contre l'appauvrissement général des populations, mais aussi permettre aussi de régler certains problèmes écologiques, car pour rechercher une main-d'œuvre plus corvéable ou au moins chère, on n'irait plus chercher délocaliser nos centres de production à l'autre bout du monde.
Laurent Jean-Pierre.
Oui, en tout cas, pour comprendre la conjoncture actuelle, je crois qu'il faut aussi la replacer dans, disons, l'histoire économique récente, et l'histoire des politiques économiques récentes, c'est-à-dire que, ou des politiques sociales, ou plutôt des politiques antisociales, comme l'a suggéré Maryse Dumas, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que, au fond, il y a une crise économique et financière mondiale, il y a plus de 10 ans, qui au fond, mettait en crise et le néolibéralisme et un certain type de management dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises multinationales, etc.
Et vous expliquez en fait que ça a donné plus de néolibéralisme alors qu'on pensait que ça allait être la réforme.
Alors en France, pour des raisons historiques que vous avez vous-même évoquées, qui est liée au fait que effectivement les institutions de l'État social se sont maintenues plus longtemps, que effectivement les politiques néolibérales qui avaient été menées dans les pays anglo-saxons n'ont pas été menées avec le même rythme ici, ce qui fait que Macron a pu être élu avec une formule de ce type, disons plus tardivement que dans d'autres pays. Toujours est-il que effectivement l'accentuation des politiques numérales a eu lieu alors même qu'il y avait une crise du néolibéralisme, ce qui fait que effectivement on connaît les résultats, augmentation de la pauvreté, augmentation des inégalités, injustice territoriale de plus en plus grande, dépeçage du service public où il y a les derniers bastions syndicaux, disons un peu puissants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc du coup, on se retrouve dans cette configuration où une transition qui est en train de se faire. Et je suis d'accord avec vous, il faut regarder vers le 19e siècle, il faut probablement regarder vers 1830, vers des moments où justement il y avait une diversité et de modes d'action et de slogans et de revendications. Et de statut à l'intérieur, effectivement, du monde qu'on n'appelait pas encore pleinement socialiste, pour essayer de penser ce qui est en train de se reconfigurer et qui ne se reconfigurera probablement pas, effectivement, dans la sphère de la production seulement, pour les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire que le précariat ayant gagné largement, alors pas à l'échelle française où le salariat quand même stable domine, mais disons à l'échelle mondiale, il va falloir probablement articuler les revendications de la production avec des revendications, disons, environnementales, des revendications sur le travail domestique, sur l'école, sur la santé, etc. Et ça, je pense que ça peut aussi être unifié.
Éric Chevet, vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que vous pensez qu'effectivement, on est à l'orée de nouvelles négociations nécessaires pour pouvoir justement... Parce que en tant que... Donc patron de PME et responsable des affaires sociales à la CPME, vous n'êtes pas non plus, j'imagine, quelqu'un qui est très heureux à l'idée de cette mondialisation du travail, division des tâches, telle qu'elle a été décrite par Anouché Carvard, par exemple, avec...
Non, et puis en plus, nous sommes sensibles aussi à la préoccupation écologique, et on sait très bien maintenant que cette mondialisation, en fait, à outrance... sur le plan écologique est quand même...
Alors qu'elle a été voulue, souvent.
Mais pas forcément, d'ailleurs, par les PME.
Non, hein. Mais enfin, disons...
Mais bon, on les a quand même beaucoup subis. Non, et très clairement, je suis d'accord sur le fait de dire que depuis 2007, notamment, et donc cette fameuse crise, il y a en fait une explosion du modèle, hein, alors qu'on imaginait qu'il y ait des régulations qui allaient se mettre en place et que c'était un peu l'inverse, il y a une explosion du modèle. Ça nous interpelle, nous d'ailleurs aussi, y compris sur l'entrepreneuriat.
Sur que vous voudriez être plus défendu d'une certaine plus
mais
protégé.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on se pose des questions, tout comme d'ailleurs nos collègues des organisations syndicales, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de travailleur hybride qui se trouve au milieu en fait de l'entrepreneuriat et du salariat. Et est-ce que c'est quelqu'un qui est un entrepreneur ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un salarié? Est-ce qu'il y a une possibilité pour un statut nouveau? Et le fait qu'on n'ait pas de réponse aujourd'hui, parce que c'est compliqué derrière, ça veut dire aussi tout le financement de notre modèle social, etc. Le fait qu'on n'ait pas de réponse peut-être aussi participe
à une certaine angoisse.
Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut retravailler sur les fondamentaux en matière de démocratie sociale.
Ce qui est quand même très étrange, Anouché Carvard, c'est que, au bout du compte, aucune opposition politique n'a tiré profit pour l'instant de ce qui est en train de se passer dans la rue, de ce qu'on a vu l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de ces mouvements et de cette conflictualité sociale en potentialité de changement, d'une certaine façon, au niveau politique. Ça reste dans des espaces qui sont confinés, disons, à l'entre-soi ou dans des espaces qui sont, disons, à l'écart de la politique parce qu'on s'en méfie.
Écoutez, ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs beaucoup d'observateurs ont pu le dire aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était cette interpellation de l'État. Et pas des entreprises ou des employeurs ou des patrons. C'était l'État qui était interpellé.
Donc ça veut dire qu'il y a encore un poids dans
Non, mais revenons à la fin du 19e siècle, revenons à la création de l'OIT, revenons au sortir des deux grandes guerres, à la construction de l'État-providence. L'État-providence, c'est un produit de l'État national. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande aujourd'hui de cohésion nationale autour d'un État régulateur, d'un État qui garantisse les biens sociaux, qui garantisse, qui les définisse d'ailleurs avec tous ces changements.
Mais vous savez bien qu'il y a une demande et une méfiance en même temps. C'est-à-dire que il y a la demande et la méfiance. Quand on dit les Français sont pour le changement du régime des retraites, c'est le sondage d'hier dans le JDD, mais pas, il ne faut pas confiance à Emmanuel Macron pour le mettre en œuvre, par exemple. Donc il y a à la fois une demande et une méfiance.
Ah oui, mais la demande à l'égard des États n'est pas seulement au niveau de la France. Vous m'avez demandé de parler de mon expérience internationale. La semaine dernière, j'ai participé au niveau onusien à un grand forum qui s'appelait le Droits de l'homme et entreprise. Et les organisations internationales, les ONG, les partenaires sociaux au niveau international sont tournés vers les États. Alors que d'un côté, vous avez les droits de l'homme, c'est-à-dire des droits universels qui doivent être garantis par des organisations internationales, et de l'autre, les entreprises. Et tous les regards étaient portés sur la manière dont l'État peut aujourd'hui faire exercer un devoir de vigilance sur les droits humains dans les entreprises.
De votre côté, Maryse Dumas, vous évoquiez tout à l'heure le droit des femmes, vous avez parlé également des jeunes qui manifestent pour le climat. Est-ce que justement, il y a quelque chose qui peut venir de ce côté-là ? C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, qu'Extinction Rebellion est un mouvement pour le climat, pour la défense du climat, et que c'est un mouvement non violent. On a du mal à s'y repérer quand on regarde cela avec les lunettes classiques. On pourrait dire que d'une certaine façon, il y a là des modes d'action qui sont très différents des modes d'action du XXe siècle que vous avez et que nous avons tous connus autour de cette table.
Oui, bien sûr, mais le plus important, ce ne sont pas les modes d'action. Moi, je pense que chaque génération utilise les modes d'action qui correspondent à ce qu'elle a, à ce qu'elle a sous la main, en quelque sorte. Puis, compte tenu des médias, on utilise les médias pour. On voit bien la façon dont les manifestations, dont les banderoles, les couleurs sont utilisées pour pouvoir passer à l'image. Il est certain qu'à la fin du 19e siècle, c'était impensable puisque les médias n'existaient pas. Donc, chaque génération utilise les modalités d'action qui lui correspondent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fond, c'est-à-dire pourquoi on se mobilise. Dans les médias, justement, on parle beaucoup de colère, de grogne, mais ça ne veut rien dire. Chaque mouvement a des exigences, à la fois des refus par rapport aux réformes qui lui sont imposées et en même temps des exigences. Et je pense que c'est du côté des exigences qu'il faut chercher, parce que c'est là qu'on peut construire du commun. Et au fond, quand on parle, par exemple, des jeunes en situation de précarité ou qui veulent travailler pour des plateformes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils veulent être plus libres qu'on ne l'est dans le salariat. C'est excessivement important, cette question de liberté. Et je pense que ça, c'est un sujet à travailler.
Oui, c'est à travailler, mais ça va souvent à l'encontre des idées que l'on se faisait à la fin du XXe siècle sur la protection du salariat, par exemple.
Oui, bien sûr, pas forcément, ça dépend, il faut en discuter, mais si vous voulez, en tout cas, au plan syndical, on n'a pas du tout l'intention d'être fermé sur les idées d'hier. Ce qui compte, c'est de se servir de l'expérience d'hier pour avoir des réponses aujourd'hui et pour demain. Et par exemple, les mouvements pour la planète interrogent un autre système, appellent à un autre système productif et à un autre système de consommation. Et bien ça rejoint aussi les luttes des salariés qui disent on en a marre de pas avoir de sens, de pas donner de sens à notre travail parce qu'on travaille que pour le taux de rentabilité des actions et ce qu'on voudrait c'est être utile à la société, avoir un travail qui soit utile à la société. Vous voyez bien que sur des questions comme ça, il y a énormément de travail à faire, mais moi je trouve qu'en quelques mois, la situation a beaucoup bougé et elle nous ouvre des perspectives importantes. Regardez bien dans les sondages que vous citez, le type de réponse selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire autour du grand bloc de ceux qui se sentent justement laissés pour compte, de ceux que, dont le président Macron dit qu'ils ne sont rien. Je pense que quelque chose se produit là.
20 secondes à Laurent Jean-Pierre pour conclure.
Ben, je peux pas conclure, mais ce que je peux dire, c'est que en tout cas, par rapport à l'État, puisqu'il a été question de l'adresse à l'État, je crois que c'est pas la seule demande qui a émané l'année dernière. Il y a une demande, justement, fédératrice autour de plus de démocratie, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se rejouent à l'échelle locale, c'est-à-dire à d'autres échelles qu'à l'échelle, justement, étatique ou nationale. Une demande, justement, de prise en main de ces conditions de vie à l'échelle locale.
Le renouveau de la démocratie locale.
Voilà, absolument. Et je pense que ça, c'est une des pistes de convergence des mouvements qui échappent en partie au monde du travail aujourd'hui.
Merci à tous les quatre d'être venus ici pour évoquer cette conflictualité sociale en cours aujourd'hui en France.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Merci. Et je rappelle votre livre aussi, Laurent Jean-Pierre, Ingiroom, les leçons politiques des ronds-points. Merci à nos quatre invités. Merci à vous, Anouché Carvard, d'être venu. À vous, Éric Chevet, ainsi qu'à Maryse Dumas et ainsi qu'à France Bleu Gironde qui l'accueillait.